Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes heureux cette semaine de vous retrouver à nouveau pour parler du protestantisme en Beauce. C'est un sujet très intéressant, c'est un sujet un petit peu méconnu finalement de notre histoire, de l'histoire de France. Et en plus, c'est un sujet qui a concerné particulièrement Orléans, l'Orléanais en général. Et donc, ça mérite d'être étudié un petit peu en détail. C'est ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière avec Pierre Dumont. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc la semaine dernière, on a vu un petit peu en détail l'histoire du protestantisme, de quoi c'est né finalement par rapport au catholicisme. On a vu un petit peu les différences entre les deux croyances. On va cette semaine aborder différentes étapes du déroulement du protestantisme en Beauce. On a parlé la semaine dernière des guerres de religion, de la Saint-Barthélemy, de l'édit de Nantes, la tolérance donc des protestants, et puis là on va parler un petit peu plus de justement de la révocation de cet édit de Nantes et puis ce qui s'est passé après cette révocation, et donc l'époque où les protestants se sont cachés, ont fui finalement la France, l'Orléanais, et sont allés se réfugier à l'étranger comme en Suisse ou au Québec, en Belgique aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, Pierre?
Oui, je peux. C'est une période qui est une période de grande clandestinité, voilà. Où les protestants, quand ils habitaient en ville ou dans les bourgs, se faisaient tout petits, mm-hmm. parce que le moindre chose qui choquait en cours de route, ils se retrouvaient avec leur maison détruite ou mm-hmm. Avec de très 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 gros problèmes. Okay. Ces protestants, pour la plupart, étaient d'un haut niveau. C'est des gens qui savaient lire, compter, mm-hmm. écrire. Même dans les campagnes, parce qu'on devait savoir lire la Bible. Donc cette obligation en fait des gens qui sont instruits, alors que de l'autre côté, le peuple des campagnes catholiques, lui, n'était pas instruit. Petit à petit, certaines écoles ont ouvert pour les garçons. Les filles ne devaient même pas savoir lire le latin, ça leur était interdit.
Alors, il faut rappeler que là, on est au début de l'imprimerie, la Bible était très peu répandue, le XVIe siècle.
Hein. Cette Bible a une histoire orléanaise très forte, mm-hmm. puisque jusqu'ici, la Bible était traduite du grec en latin, mm-hmm. et elle était lue en latin. Puis est arrivé un traducteur qui était également étudiant à Orléans, qui était d'ailleurs de la famille de Calvin, qui était Olivetin, et Olivetin a traduit la Bible de l'hébreu en français. Mmh. Hein? Donc, il y a deux types de Bible. Cette Bible protestante, qui a été immédiatement imprimée à Genève, mmh. et puis la Bible dite Septante, qui était celle qui est issue d'une traduction du grec, qui elle-même a été issue d'une traduction issue de l'hébreu. Donc, on a des différences notables de traduction entre ces deux Bibles, une réinterprétation complète. Et surtout, on a le fait que dans les villages, on pouvait lire la Bible en français.
Voilà.
Et l'anecdote dit qu'il y avait des micro-bibles qui existaient qu'on pouvait cacher dans les chignons. Hein, comme quoi, c'était toujours la clandestinité. Mm-hmm. On a retrouvé ces derniers temps, dans l'un des murs de la ville de Chilleurs, une Bible protestante cachée.
Donc la traduction de la Bible en français, évidemment, ça a facilité la propagation du protestantisme,
oui.
quelque part.
Oui. Et puis l'invention de l'imprimerie, bien sûr, qui a permis l'ouverture sur les idées contemporaines de l'époque. Ouais. Tout était caché. Mm-hmm. Hein, par exemple, s'il y avait une procession, les protestants refusaient de mettre un drap devant leur boutique et d'ouvrir les fenêtres en haut. Et la plupart du temps, ils se retrouvaient avec des pierres, voire l'incendie de leur maison. Okay. C'était vraiment extrêmement grave. Il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas tristes. Les protestants, par exemple, à un moment, ont eu l'autorisation d'avoir un lieu de culte. Le lieu de culte qui avait été donné pour les protestants d'Orléans était à Sancerre. Qu'est-ce que vous voulez aller, vous, fêter votre croyance à Sancerre? C'était quasiment impossible. Mm-hmm. Et petit à petit, il y a eu des choses qui se sont améliorées. Par exemple, les protestants d'Orléans, plus tard, ont pu aller à Saint-Cyr, en Val, dans le château de Jérôme Groslot.
Qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Voilà. Et à chaque fois qu'ils revenaient, soit ils avaient des quolibets, soit ils avaient, surtout quand un certain nombre de nobles ultra-catholiques étaient là, on leur tirait dessus. Il y a la nuit des chaperons qui a existé, en retour même de leur, du prêche, il y a les filles qui étaient là, qui ont été troussées par les catholiques. D'accord. Troussées, vous voyez ce que ça veut dire. Mm-hmm. Hein, on a été gentils quand on a dit le terme. Mm-hmm. Donc il y avait sans arrêt, une situation de minorité avec une persécution constante. Ouais. Une persécution lourde au point où ils partaient. Ils sont partis sur deux périodes. Cette période donc où ils risquaient la mort après la Saint-Barthélemy, mm-hmm. mais aussi la période de Louis XIV, où là, ils se sont enfuis, on leur a dit, écoutez, vous avez 3 jours pour quitter le royaume. Mmh. Et ils sont partis à Genève, ils sont partis à Aix, ils sont partis à Strasbourg, ils sont partis à Londres. Alors Londres, c'est un peu spécial, parce que là, quand ils arrivaient chez les Anglicans, qui mmh. venaient aussi d'instituer leur religion. Hein, je crois que c'est en 1933 pour les Anglicans, alors que Calvin, c'est en 1530.
Vous voyez, les Anglicans, c'est une des branches du protestantisme,
qui existe toujours. C'est une forme de protestantisme mm-hmm. spécifique à l'Angleterre. Mm-hmm. Beaucoup plus proche des catholiques que les protestants calvinistes.
Oui, mais c'est une forme de reniement quand même du catholicisme.
Mais ils ne reconnaissent pas le pape. Voilà. Leur chef, proprement dit, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Mm-hmm. Voilà. Donc, ils ont été très bien accueillis quand ils se sont enfuis. Beaucoup ont été arrêtés à la frontière, mmh. et on a des gens qui ont été arrêtés sur Dunkerque, on a des gens qui ont été arrêtés sur Rouen, de la région, d'ici. Mmh. Et quand on fait la liste de tous les gens qui ont été aidés, parce que les Anglais, ils savent écrire, hein, y a plus de 20 000 personnes qui ont été reçues, mmh. et sur ces 20 000, j'ai 2 Neuvillois et 10 personnes de Chilly-Rebois. Mmh. Donc on sait que cette partie de la population est partie par là. D'accord. Pour ce qui est de plus à l'est de l'Orléanais, proprement dit, mmh. on présume qu'ils sont beaucoup plus partis en direction de l'Allemagne.
Mmh. Et donc Aix-la-Chapelle. Hein.
Voilà. Et on retrouve effectivement un certain nombre de noms connus là-bas, sans en avoir réellement les preuves, parce que là, il y a aussi des formes de clandestinité. L'Allemagne n'était pas uniquement luthérienne. Elle mmh. était luthérienne et catholique selon la volonté de chaque prince. Donc c'était quand même un peu spécial.
Et il y a des noms qui se sont fixés dans ces villes.
Il y a des noms, effectivement, partout qui se sont fixés. On a un certain nombre, d'ailleurs, de combattants de la guerre de 14 qui étaient d'origine huguenote et qui se sont battus contre nous. Donc c'est là on reconnaît. Ouais. Je sais que la famille Dulac s'est réfugiée en Hollande et s'est fait saisir tout leur bien. Donc on se retrouve avec une persécution globale sur des périodes sur lesquelles seulement la période de Louis XIV a été une période d'amélioration et de vie quasiment commune, sans avoir les mêmes droits. Hein? On se retrouve, quelquefois c'est ce qu'on dit par rapport à la guerre d'Algérie, elle ne se serait pas déclenchée si on avait donné des droits à tout le monde. Mm-hmm. Les guerres de religion ne se seraient pas déclenchées s'il n'y avait pas autant de mécontentement par rapport au statut de l'un ou de l'autre.
Oui. Donc ça a été une tolérance, mais la religion n'a pas été acceptée si facilement, et il a fallu vivre donc caché ou bien fuir.
Oui, c'était une tolérance dans le sens le plus lourd du terme. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire, vous existez, ouais. vous avez le droit d'exister, mm-hmm. Ne nous embête pas parce que ça va recommencer.
Et les temples d'aujourd'hui, d'ailleurs, n'existaient pas. Alors, le temple protestant d'Orléans, évidemment, il est venu après.
Il existait des temples qui ont été détruits les uns après les autres. Mm-hmm. C'est Bionne par rapport à Orléans, puisqu'ils avaient l'interdiction d'avoir un temple à Orléans, mm-hmm. qui a été détruit, effectivement, sous Louis XIV, pratiquement immédiatement. Hein, on supprime tout.
Aujourd'hui, il existe encore un temple en Beauce à Gobert. Est-ce qu'il existait à l'époque,
Il existe plein de temples, ouais. en fait, sur la Beauce. On en a un à Patay, on en a un à Neuville, on en avait un à Chilleurs, etc. Mmh. Ces temples-là, c'est plutôt la période après la Révolution française. Mmh. Hein? C'est une période où les protestants, grâce à Malherbe, Malherbe, on l'appelle, c'est vrai, a été avec... Lafayette, des combattants contre l'Angleterre aux États-Unis, mm-hmm. Et qui a fait remonter au roi que nous étions en train de défendre des protestants. Ouais. Donc on ne peut pas d'un côté réduire nos protestants dans le royaume de France, et de l'autre côté, les aider de l'autre côté. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Bien sûr.
Et effectivement, là, il y a eu, à un moment, une reconnaissance, au moins qu'ils avaient un état civil. Mais c'est tout. D'accord. Le fait qu'ils aient un état civil, ça veut dire qu'il pouvait y avoir héritage, qu'il pouvait y avoir contrat de mariage. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est arrivé 3 ans avant la Révolution française, pas avant.
Oui. À l'époque, la liberté de penser, c'est une liberté qui se payait. Hein, évidemment.
Très fort, très fort.
C'était tout juste toléré. Pierre, est-ce qu'on peut parler d'un épisode qui n'est pas forcément connu de notre histoire, qui est la caisse des conversions ?
C'est une invention royale monstrueuse. Il y a de l'argent qui a été mis de côté pour payer les protestants pour changer de religion. Hein ? Et il y a quelqu'un qui a été chargé de ça. Il y a bien des protestants qui se sont dit « Bon, je passe de l'autre côté, je me fais payer, et puis après, je crois ce que je veux. Mais ça n'a pas vraiment marché, même si c'était quelque chose d'odieux qui a été répandu sur l'ensemble du royaume de France, parce qu'il y a même des catholiques qui ont dit qu'ils étaient protestants pour toucher l'argent. Ouais. Donc là, il y a eu une horreur. Mais le problème, c'est que, d'accord, on devient catholique. Mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, on doit se séparer de nos enfants qui doivent être élevés en religion catholique dans des endroits précis où on en fait des clercs. Et ça a été la rue du Poirier pour l'Orléanais, où il y avait là un endroit où on avait les enfants des protestants qui étaient élevés par les sœurs et les frères pour devenir les clercs de la religion catholique.
D'accord.
Donc on était contraints à se séparer de nos enfants.
Ouais, ouais.
C'était une atrocité, parce que là, on se sépare de sa chair quand on sépare des enfants. Okay. Hein? Et pourtant, on était devenus catholiques. Alors, les derniers à être devenus catholiques, juste avant la Révolution française, ça a été l'objet d'une propagande de la religion catholique, où on a fait un grand foin de cette conversion, et on en a parlé partout, on a fait des fêtes, etc., à chaque fois que le moindre petit protestant passait de l'autre côté.
D'accord.
Hein, c'est une forme de propagande.
D'accord, Pierre. Un autre épisode également à noter, c'est ce qu'on a appelé les dragonnades, après.
Alors, les dragonnades, ça a été très dur et très long sur l'ensemble du territoire français. Là, on est sous du Louis XIV.
Hein,
Le but était de faire loger les dragons pour faire pression sur les protestants, afin que soit qu'ils partent, soit qu'ils aillent jusqu'à la conversion, avec tous les aléas de la conversion derrière. Donc on mettait les dragons à loger chez les protestants.
Les dragons, c'est-à-dire
C'est les chevaux du roi.
Voilà.
Hein,
des
soldats.
Ouais.
Hein, chevaux légers du roi, voilà, c'est les dragons. Et eux avaient tous les droits, sauf le droit de tuer. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils se servaient, ils étaient servis, ils étaient logés, nourris, blanchis, et on leur prêtait cuisses. Voilà. C'était une atrocité, et certains évêques ne l'ont pas tellement apprécié, même si certains voulaient l'extermination des protestants. Entre autres, l'évêque d'Orléans, qui est considéré par les protestants d'Orléans comme étant un héros, un juste parmi les justes, parce qu'il a refusé les dragonnades sur l'Orléanais, sur son territoire, en disant « Non, je me soucie de mes protestants, je fais affaire pour que ces gens-là repartent vers la bonne religion, et je ne veux pas des chevaux du roi. » Par contre, ailleurs, ça a duré jusqu'au milieu de Louis XVI. Jusqu'au milieu de Louis XVI, ils ont été persécutés, et les dragonnades partout en France. Et il y a eu des milliers de victimes de ces dragonnades avec des gens contraints à partir.
Okay.
Et là, ils partaient à nouveau loin d'ailleurs, parce qu'on les retrouve en Amérique du Sud, on les retrouve partout.
On partait se marier, entre autres, à l'étranger. Il y a un livre de Gérard Boutet qui est connu, qui s'appelle « Les mariés de Tournai ».
Oui, et particulièrement les gens de Beauce.
Oui.
J'ai ici la liste complète des gens qui se sont mariés, dont les Neuvillois sur lesquels j'ai travaillé, dont certains de mes ancêtres. Ils partaient en sabots, se mariaient à Tournai, où il y avait là des Hollandais qui étaient là en termes de garnison. Et ces garnisons avaient un pasteur, puisque ces Hollandais étaient luthériens. Et ils allaient se marier auprès du pasteur de ces garnisons, et ils revenaient. Et on a noté leur nom là-bas. On a noté quels actes ils ont eus, Et ils ont pu, après, dire, lors de leur reconnaissance, en 1787, qu'ils avaient été mariés. Beaucoup ont déclaré, d'ailleurs, des gens qui étaient déjà morts à ce moment-là. Donc, ils partaient et ils revenaient comme ça, avec tous les aléas qu'il pouvait y avoir en cours de route. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se faire arrêter tout le temps en cours de route. Beaucoup dans les familles Gojard, dans les familles Braquemont, dans les familles Duneau, les familles Barberon, toutes ces familles-là ont eu des gens qui ont fait l'aller-retour jusqu'à Tournai. C'est aussi une forme d'atrocité, mais c'était pour eux la seule manière, par rapport à Dieu, d'être en conformité. Certains autres se sont mariés avec des pasteurs clandestins, entre autres Racine Dumont d'Orléans, qui était pasteur clandestin, puis Lombard. Lombard, qui est devenu après, d'ailleurs, le maire d'Orléans pendant la Révolution française.
D'accord. Voilà.
Et un certain nombre de nos ancêtres ont été donc baptisés ou mariés clandestinement par ces gens-là. C'était aussi dans les ambassades à Paris, dans les ambassades des pays protestants ou luthériens, où ils allaient se marier aussi, et là où il y avait la possibilité d'avoir un acte officiel.
Donc des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas
Plutôt les Pays-Bas, plutôt la Hollande, plutôt les pays du Nord. Hein, tous les pays du Nord dans lesquels les princes étaient
pays anglo-saxons.
Voilà, c'est ça.
Ok. Pierre, on va faire une petite pause, parce que il faut que je t'arrête, parce que sinon tu vas nous parler pendant des heures de ce sujet. On fait une petite pause et puis on se retrouve après. D'accord ?
D'accord.